Notre présent, nous avons le grand plaisir de pouvoir accueillir pour cette soirée Axel Brodier de Lino, et on la remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation commune à TD Grand Lyon et Espace Saint-Ignace. Alors, comme on a eu l'occasion de faire connaissance à l'occasion de l'élaboration de la thèse d'Axel, je vais me permettre de la tutoyer pour la présenter. Alors, Axel, tu es historienne, tu es directrice du Centre national de la, au Centre national de la recherche scientifique.
Tu m'en attribues un peu trop là.
Voilà. On peut dire que son domaine d'études et de recherche, c'est un peu l'évolution de la protection sociale, l'évolution de la lutte contre la pauvreté. Elle est membre du Comité national de lutte contre l'exclusion et co-directrice d'une revue. Directrice d'une revue, ouais. Je ne suis pas sûr, qui s'appelle
Le Mouvement Social.
Voilà, et elle s'est beaucoup investie pour approfondir l'histoire d'un certain nombre d'associations qui sont impliquées dans la lutte contre la pauvreté. Elle a déjà à son actif, elle a publié l'histoire du Secours populaire français, l'histoire d'Emmaüs, l'histoire de Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon. Et plus récemment, elle s'est attaquée à l'histoire du mouvement TD Quart-Monde. Et c'est l'occasion de la sortie de son livre qui nous vaut d'avoir proposé cette rencontre ce soir. Voilà, je vais te laisser la parole. Quelques petites précisions techniques, si on peut dire. Cette séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera mis sur le sur le site de l'Espace Saint-Ignace. Vous trouverez ce site sur les petits livrets programmes qui sont à votre disposition à l'accueil. Comme vous l'avez vu, à la sortie, vous avez des propositions de documentation sur l'existence, sur le mouvement TD Quart-Monde, pour ceux que ça intéresserait de s'en procurer. Et il y a ici quelques exemplaires du livre d'Axel, qui est en vente. C'est 600 pages, hein, pour 25 euros. Ceux qui sont intéressés peuvent profiter de cette soirée pour se procurer. Voilà, alors Axel dispose d'une heure pour son exposé, après quoi nous aurons un temps de questions qui lui seront adressées et on espère finir autour de 21h. Voilà, bonne conférence.
Merci Daniel. Merci d'être si nombreux. Je ne pensais pas qu'il y aurait un tel public. Donc voilà, super. En fait, ce n'est pas une thèse. Ma thèse, c'était sur le secours populaire. C'est ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches. Mais c'est, voilà. J'ai aussi travaillé sur les politiques de lutte contre la pauvreté. Je ne passe pas mon temps à écrire sur les associations, quand même, même si c'est ce que je préfère. C'est quand même plus vivant et plus intéressant. Mais de temps en temps, il faut quand même travailler un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et puis j'ai aussi travaillé sur un certain nombre d'autres choses. Et je travaille même sur l'abbé Pierre en ce moment, voilà, si vous voulez tout savoir. Alors, la question que, enfin, ce que voulait Daniel, c'était à la fois de vous parler de ce livre qui est donc consacré à l'histoire d'ATD Quart-Monde de sa création jusqu'à plus loin possible, c'est-à-dire quand je faisais mes recherches, donc les années 2020 à peu près, même si bon, sur la fin c'est moins traité. Et c'était aussi de remettre les choses en perspective. Daniel disait que ça pouvait être intéressant de vous parler plus largement de la lutte contre la pauvreté, des évolutions récente, parce que c'est vrai, enfin, je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe, mais le regard porté sur les personnes en difficulté depuis un certain temps se durcit, les politiques publiques sont difficiles. Et donc voilà, on peut aussi parler de tout ça, remettre les choses en perspective. Je le ferai un peu dans la dernière partie, puis après peut-être je peux aussi parler un petit peu moins et vous poser un peu plus de questions. Enfin, je sais pas si vous voulez aussi intervenir en cours de route, je sais pas comment ça se passe d'habitude, mais n'hésitez pas. Donc en fait, ce qui me paraît très intéressant dans cette association, et c'est pour ça que ça a duré si longtemps ce travail, c'est que à ma connaissance, c'est la seule association qui ait vraiment transformé les politiques sociales. On ne peut pas dire ça du Secours catholique, on ne peut même pas dire ça d'Emmaüs. Emmaüs, c'est l'appel de 54, et puis après, c'est un certain nombre de transformations ponctuelles des politiques publiques. ATD Quart-Monde a transformé l'histoire de la protection sociale française, a transformé l'histoire de la lutte contre la pauvreté en France et au niveau international, de façon un peu moins spectaculaire, mais quand même. Et donc, en fait, l'idée, pour articuler à la fois la demande de Daniel et ce qu'il y a dans ce livre, et puis pour vous faire comprendre l'intérêt de ce travail, c'est d'essayer de comprendre comment, en fait, une association peut faire vraiment bouger les choses, alors qu'aujourd'hui, des fois, on est un petit peu désespéré sur la capacité qu'on a à faire avancer les politiques publiques. Je voudrais commencer très rapidement, mais ça me semble très important de rappeler que le regard qu'on porte aujourd'hui sur les pauvres, alors j'imagine que je prêche des convaincus ici, mais enfin, c'est quand même toujours bien de le redire, le regard qu'on porte aujourd'hui sur les personnes en situation de pauvreté n'est pas ce qu'il y a écrit dans notre culture, enfin le texte, les textes fondateurs de notre culture que sont la Bible, alors que même souvent c'est des croyants qui le font. Et donc repartir d'où on vient et pourquoi on en est arrivé là, juste très rapidement. Juste rappeler d'abord que la pauvreté, c'est une représentation biblique valorisée. Le pauvre, c'est l'image du Christ sur terre. Dans l'Ancien Testament, on demande d'aider la veuve, l'orphelin, l'indigent, l'étranger. Dans le Nouveau Testament, on parle de la figure du pauvre Lazare qui est devant les miettes du festin du riche. Et il y a surtout ce texte qui est absolument fondamental du Nouveau Testament, c'est la parabole du jugement dernier. Vous connaissez, est-ce que je voulais... Non, je voulais pas écrite. Mais j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison, vous m'avez visité, etc. Et donc, il y a six figures comme ça. Et il dit, ce que vous avez fait à chacun de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire qu'en fait, le pauvre sur terre, c'est l'incarnation du Christ. Et donc, il y a obligation. C'est un devoir moral, c'est un devoir impérieux, citoyen, etc., à tout point de vue, d'aider la personne en difficulté. Donc on part de là, et comment ça se fait que finalement, aujourd'hui, on en est si loin de cette image, de cette identification ? Et parce qu'en fait, ça s'est renversé très très tôt. Attendez que je maîtrise mon PowerPoint. Ça s'est renversé très très tôt à la fin du Moyen-Âge où pour une série de raisons on a commencé à faire la chasse aux mendiants et aux vagabonds parce qu'ils véhiculaient des épidémies, parce que c'était un contexte économique difficile et que donc il fallait les mettre au travail, parce que les politiques publiques avaient intérêt à des formes plus dures. Et donc dès la fin du Moyen-Âge on a une série de politiques publiques qui transforment complètement ce regard et qui commence à fabriquer des clivages à l'intérieur de la pauvreté. D'abord, entre la pauvreté choisie et la pauvreté subie, c'est les ordres mendiants, puisqu'il y en a qui choisissent la pauvreté. Les ordres mendiants, bah, typiquement, ceux qui la subissent, bah, c'est un peu moins noble. Donc, du coup, ça dévalorise la pauvreté. D'autre part, il y a un clivage très important qui nous emprunt complètement encore aujourd'hui, qui est un regard plus suspicieux et qui commence à discriminer. Est-ce que vous êtes un pauvre d'ici ou est-ce que vous êtes un pauvre d'ailleurs ? Si on est un pauvre d'ici, le pauvre de la paroisse, le pauvre de l'interconnaissance, on va l'aider, c'est normal. Mais si vous êtes un pauvre du village d'à côté, un pauvre d'ailleurs, ben vous repartez dans le village d'à côté. C'est vraiment à chacun ses pauvres. Et ça s'est créé très très tôt, hein, dès la fin du Moyen-Âge, l'époque moderne. Et on voit encore aujourd'hui que ben, entre le pauvre d'ici et le pauvre d'ailleurs, avec des frontières qui se sont élargies au fur et à mesure, le village d'à côté, le département d'à côté, le pays d'à côté, le continent d'à côté, et ben, aujourd'hui, on porte un regard plus dur sur les personnes qui sont d'ailleurs que sur les personnes qui sont d'ici. Et d'autre part, dès la fin du Moyen-Âge aussi et durant toute l'époque moderne et encore aujourd'hui, on a discriminé sur la capacité au travail. Vous êtes un adulte, vous travaillez, c'est très bien, vous êtes un bon pauvre, un pauvre méritant. Vous ne travaillez pas, eh ben partez au travail. Sans du coup se poser la question de savoir pourquoi la personne ne travaille pas, si elle a des handicaps, s'il n'y a pas de travail, si, etc. Enfin, il y a plein de raisons pour ne pas travailler, et en général, elles sont toutes bonnes. Mais c'était un espèce d'angle mort de la compréhension. Et donc, aujourd'hui encore, eh ben, un adulte valide qui ne travaille pas, il est suspecté d'être un assisté, un fainéant, un parasite de la société, etc. On a trouvé absolument tous les termes à travers l'histoire, mais en fait le passé est quand même très important pour comprendre que la situation qu'on vit aujourd'hui, en fait, elle s'est construite il y a des siècles et même plus d'un demi-millénaire, et on est ancré dedans. Et donc se débarrasser de ces convictions, bah, c'est extrêmement difficile parce qu'on les a quasiment naturalisées. Et donc pendant des siècles, à la fin du Moyen-Âge, alors aujourd'hui en fait on peut même s'estimer heureux parce qu'à la fin du Moyen-Âge, les mendiants et vagabonds qu'on prenait en train de mendier ou de vagabonder, c'était le pilori, la marque au fer rouge, et puis c'était l'essoriement, c'est couper une oreille, et puis après c'était la pendaison, l'envoi aux galères. Donc vous imaginez un peu d'où on vient. Et puis après, à l'époque moderne, c'était plus vraiment des sévices, mais on enfermait les gens dans des dépôts de mendicité, dans des hôpitaux généraux, etc. Et puis on les envoyait aux galères. Donc vous voyez qu'en fait l'idée qu'il faut réprimer la pauvreté quand elle ne prend pas les formes qu'on veut, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré et qui explique du coup... je vais aller vite, mais attendez. Voilà. Qui explique du coup d'où on vient. Et la Révolution française, je ne développe pas, n'a pas vraiment changé les choses. Et le 19e siècle non plus. Le 19e siècle, c'est le code pénal de 1810 où on fait du vagabondage et de la mendicité des délits. Et donc vous êtes pris en train d'être mendiant ou vagabond, et ben on a le droit de vous conduire au poste de police et après au dépôt de mendicité. Et comme après vous sortez du dépôt de mendicité, vous n'avez toujours pas de travail, ben vous retournez à la rue et donc vous retournez au poste de police et donc vous retournez au dépôt de mendicité, etc. Comme ça, c'était des cercles sans fin. Et tout ça, ça a duré pendant des siècles. Donc voilà d'où on vient. Et finalement, donc vous voyez qu'on est parti d'une représentation très valorisée de la pauvreté dans la Bible, que de la fin du Moyen-Âge, l'époque moderne, le 19e siècle, ça s'est complètement retourné et on s'est retrouvé avec une image plutôt négative, enfin en tout cas coercitive, d'un certain nombre de figures de la pauvreté. Et puis après, bah, finalement, il y a quand même eu des gens à partir de la fin du 19e siècle, on dit, mais en fait, c'est complètement absurde de mettre des gens comme ça en prison, de les enfermer, etc. Ça ne rime à rien, il faut changer d'approche, donc il faut avoir une approche beaucoup plus assistentielle. Et donc on a commencé à faire de l'assistance, c'est nos premières lois sociale, je ne développe pas, je vous les montre pour ceux qui les veulent. On a commencé à faire de l'assistance, on a commencé à faire de l'assurance, c'est la protection sociale française qui s'est mise en œuvre. Mais quand la protection sociale française s'est mise en œuvre, en fait, elle s'est mise en œuvre que pour les bons pauvres, c'est-à-dire les pauvres en incapacité de travailler, les personnes âgées, les enfants, les malades, les vieillards, etc. Mais jusqu'au RMI, de 88, et on en arrive à t'aider tout de suite, rapidement, en fait, il n'y avait pas de loi d'assistance pour les pauvres de façon générale, pour toute personne en difficulté, quelle qu'elle soit. Il y avait toujours ces critères comme ça, est-ce que la personne mérite bien d'être aidée ? Et du coup, bah, qui a travaillé aux côtés des pauvres ? C'était les associations. Depuis le 19e siècle, ce sont les associations, et en particulier les associations catholiques que vous connaissez. On pourra en reparler si vous voulez, mais c'était pour poser ce cadre. Et donc, quand arrive le début d'AT&T Quart-Monde, dans les années 50, le père... Brzezinski, que vous voyez ici, avec sa bonne bouille. On en est où ? Eh bien, on en est dans les années 50 où il n'y a toujours pas de droit à l'assistance pour toute personne, quelle qu'elle soit. On en est toujours avec les bons pauvres et les mauvais pauvres. Et puis, il y a ce fameux bidonville dont je vais parler tout à l'heure, le bidonville de Noisy-le-Grand, où atterrissent des familles, alors plutôt françaises, contrairement à la plupart des familles, des bidonvilles de l'époque, où ce sont des familles d'origine immigrée. Mais ce sont des bidonvilles, là, c'est un bidonville de familles françaises. Et Wrezinski, qui sait, c'est quand même intéressant de dire deux mots, parce que Wrezinski, donc, il naît en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Il naît dans un camp d'internement, parce que ses parents sont étrangers, donc ses parents ont été internés. Il perd sa petite sœur, parce que les conditions dans le camp sont tellement dramatiques qu'elle meurt de maladie. Et puis ses parents sont étrangers, ça n'est pas rien. Il n'a pas été si discriminé que ça pour son origine étrangère, mais il va vivre très vite dans la pauvreté, parce que en fait, quand ils sortent des camps, donc il habite à Angers, et son père tient un commerce de montres. On vole à son père la montre en or que quelqu'un lui avait confiée, et son père décide de tout vendre pour rembourser cette montre en or. En fait, je pense que l'histoire de la France, on pourrait même dire, si on faisait de l'histoire contrefactuelle, si personne n'avait volé cette montre en or au père de Wrezinski, eh ben, si ça se trouve, la protection sociale française ne serait pas changée aujourd'hui, parce que il aurait pas, ça aurait, enfin, c'est fondamental dans son histoire. Mais c'est vrai, en fait, des fois, il suffit de petits trucs qui expliquent. Et donc le père est ruiné, le père vend tout, le père devient aigri, devient violent, tape sa femme et ses enfants, et finit par partir, et finit par abandonner sa femme. Et du coup, bah, c'est une famille monoparentale, comme on dit aujourd'hui. Il grandit dans une famille monoparentale, élevée par sa mère et dans la pauvreté. Et il apprend ce que c'est que la pauvreté. C'est un des seuls grands fondateurs associatifs qui a grandi dans la pauvreté, enfin d'associations de solidarité, de lutte contre la pauvreté, j'entends. Mais ça change tout, en fait, de l'avoir vécu, de savoir, d'avoir expérimenté. Il a des phrases, il a expérimenté l'aumône, il a expérimenté sa mère qui lui demandait d'aller rapporter la bouteille d'huile à l'épicier parce qu'il fallait encore rajouter une goutte d'huile parce qu'elle n'était pas assez pleine. Il a expérimenté de devoir se lever le matin pour aller emmener la vache, traire la vache, aller... dire la messe, aller, etc., parce qu'il fallait ramener de l'argent à la maison. Il a expérimenté le regard du bureau de bienfaisance, il a expérimenté l'humiliation de la pauvreté, l'humiliation de sa mère, il a tout expérimenté. Et il en tire des choses absolument magnifiques, comme par exemple cette phrase où il dit, en fait, « Le seul homme qui honorait ma mère, il a ce mot, c'est magnifique, le seul homme qui honorait ma mère, c'est le curé de la paroisse, parce qu'il ne venait pas pour donner, mais pour prendre. Il venait demander à sa mère le denier du culte, et sa mère avait mis un petit peu d'argent. Et donc, en fait, c'est un respect de la dignité de sa mère. Sa mère donnait ce qu'elle pouvait, mais elle donnait. Donc, en fait, il grandit comme ça. Là, on est rue Salin. En arrivant, j'ai été regarder. L'abbé Pierre a vécu à 4 rues de là, enfin, 4 numéros de là, au 26, 6 numéros, on est au 20. L'abbé Pierre, c'est un grand bourgeois. Il a grandi dans la bourgeoisie. Il a grandi dans la bourgeoisie d'Ainay. Donc, voilà, ça explique pas mal de choses. Donc, notre Joseph Wrezinski, finalement, il décide de devenir prêtre. Il va à la mission française. Et on le voit qui essaye d'aller toujours plus bas dans le monde. Il essaye d'aller plus bas chez les ouvriers et encore plus bas. Il va dormir sous les ponts. Il essaye d'aller trouver des clochards. Il essaye, etc. Et donc, quand l'abbé Pierre cherche un aumônier pour son camp, parce qu'entre-temps, il y a l'hiver 54, l'appel de l'abbé Pierre, cette mobilisation extraordinaire de février 54. Et du coup, plein de gens arrivent à Paris et demandent à être logés. Sauf qu'on ne peut pas loger tout le monde. Et on loge en priorité ceux qui ont le plus de revenus, qui sont... le plus apte à tenir un logement. Et à la fin, il en reste qu'on n'a pas relogé. Et le Emmaüs les met dans un bidonville, ce qui devient un bidonville, ce qui devient le bidonville de Noisy-le-Grand. Et donc, le père Wrezinski arrive pour devenir aumônier de ce camp que... Hop, le poids de l'aumône est lourd à porter. Voilà, ce camp qui est là, donc ces igloos, ces demi-baraques en fibre-ciment avec un toit en tôle ondulée, ou pas ondulée d'ailleurs, ça dépside partout, tous ondulés. Et le sol en terre battue, enfin voilà, où il fait extrêmement chaud, terriblement chaud l'été et terriblement froid l'hiver. 375 familles dans ce qui devient un bidonville et que les pouvoirs publics veulent détruire, puisqu'on est à l'époque de la lutte contre les bidonvilles et que l'idée, c'est de détruire tous les bidonvilles de France pour les remplacer par des logements sociaux. Et Wrezinski, parce que arrive aussi Geneviève de Gaulle, parce qu'un certain nombre d'alliés que je vais vous présenter tout à l'heure, décide que non, il ne veut pas faire détruire le bidonville, il veut faire ce qu'il appelle une expérience, une expérience sociale. Il veut monter une cité familiale de promotion sociale. Il veut d'abord regrouper les familles, parce qu'il dit si on détruit le bidonville, en fait, on va disperser les familles. Elles vont toutes partir et en fait, bah, elles vont perdre tout ce qui fait le peu de leur force. C'est leur solidité, leur cohésion, le fait qu'on les épaule. Et donc il sait que ça va être une catastrophe, que les familles vont retomber à la rue. Et au contraire, lui, il veut essayer de fabriquer quelque chose, une expérimentation sociale avec plein de dispositifs autour. Il a plein d'idées. Et donc, il commence bah, à mettre une bibliothèque dans le camp. C'est cette fameuse bibliothèque au tout début, il crée un foyer féminin pour que les femmes se fassent belles et déjà qu'elles soient propres, qu'elles puissent se tenir propres, parce que dans un bidonville, c'est extrêmement difficile d'être propre, c'est boueux, etc. Et puis il s'aperçoit que en fait, quand les femmes elles peuvent aller laver leur linge, quand elles peuvent aller, parce qu'il y a une esthéticienne qui vient, elles peuvent se faire coiffer, etc. Bah du coup, elles reprennent confiance en elles parce qu'elles, du coup, elles se retrouvent belles, elles se réconcilient avec leur image en quelque sorte. Et donc, du coup, bah, elles vont mieux. Donc, du coup, elles osent aller parler à l'institutrice de leurs enfants. Et du coup, bah, elles osent aussi parler à la mairie. Elles osent, etc. Donc, elles osent sortir. Elles osent... Enfin, elles sont mieux, quoi. Elles sont tout simplement... Mais personne n'avait jamais mis un salon d'esthétique dans un bidonville. Personne n'avait jamais mis des tableaux de Picasso dans un bidonville. Et pourtant, les lithographies sont restées, etc. Donc, ce bidonville, ça devient quelque chose de très expérimental, de très intéressant, où il y a, en fait, en germe rapide, rapidement tout ce qui va faire l'originalité d'ATD, le pivot culturel. Le pivot culturel, c'est à la fois une bibliothèque, mais c'est mettre de l'art, c'est aussi aider les enfants à ce qu'ils puissent faire leurs devoirs. Le pivot culturel, c'est un endroit où un enfant qui n'a pas d'endroit dans son petit igloo pour faire ses devoirs parce qu'il y a trop de bruit, c'est trop petit, etc., il va avoir un petit endroit. Et donc, petit à petit, comme ça, ATD invente les dispositifs qui sont les dispositifs encore aujourd'hui qui deviendront bibliothèque de rue, les pivots culturels, etc. Et donc, c'est une approche qui est complètement nouvelle de la misère. Et Wrezinski dit aussi, en fait, il a conscience que tout fait... Quand on est pris dans la misère, on est dans un cercle vicieux et que le cercle vicieux, on descend de plus en plus bas et on n'arrive plus à en sortir. Et donc, il a cette idée de faire une espèce de rembobinage des cercles vertueux, marche arrière. Et donc, il instaure des tas de petits dispositifs pour que les gens remontent les marches petit à petit et reconstituent autour de la famille, reconstruisent la cellule familiale et épaulent tout le monde. Et arrive à cette époque-là, c'est la phrase canonique, quand il arrive dans le bidonville, alors c'est pas exactement, je suis pas sûre que ce soit le 14 juillet 1956 quand il est arrivé qu'il l'ait prononcé, je pense même que non, mais c'est cette fameuse phrase « D'emblée, j'ai senti que je me trouvais devant mon peuple, cela ne s'explique pas, ce fut ainsi ». Dès cet instant, ma propre vie a pris un tournant. Ce jour-là, je me suis promis que si je restais, je ferais en sorte que ces familles puissent gravir les marches du Vatican, de l'Élysée, de l'ONU. Et ça, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il y est arrivé. Il est dans un bidonville où il y a 375 familles complètement... coupé du monde, qui vivent dans la misère, et il décide qu'il les fera gravir les marches du Vatican, de l'Élysée, de l'ONU. Personne n'a encore jamais eu cette idée. Le Secours catholique n'a pas du tout l'idée d'aller taper aux portes des pouvoirs publics pour faire quoi que ce soit. Le plaidoyer n'existe pas. Enfin, je vais vous le montrer, mais comment c'est novateur d'avoir l'idée d'avoir fait ce plaidoyer. Et donc, très vite, il y a des alliés qui arrivent. C'est Francine de la Gorce, elle a un rôle très important. Alvine de Vos, elle, qui est diplomate, elle a un rôle très important. Il y a aussi des journalistes, Ménie Grégoire, Geneviève de Gaulle, qui est la nièce du général de Gaulle. Enfin, petit à petit, il arrive à attirer des grands noms comme ça. Et finalement, il obtient que le camp ne soit pas détruit, que le bidonville reste et qu'on viabilise le bidonville et qu'il mène son expérimentation à sa sauce. Et donc, petit à petit, oui, le refus des distributions gratuites et humiliantes, ça, c'est par exemple, c'est quelque chose qui différencie ATD des Restos du Cœur. Le principe des Restos du Cœur, c'est qu'en fait, quand les gens n'ont pas d'argent, en fait, on ne va pas les faire payer. Et bien, Brzezinski, les familles n'ont pas d'argent, il dit, mais tant pis, on ne leur donnera pas les vêtements. Ils vont donner quelque chose de symbolique parce que c'est avilissant de recevoir comme ça. Et donc, ils virent les soupes populaires, ils virent, etc. Voilà, ils créent ce foyer féminin. Ça, c'est Geneviève de Gaulle quand elle était jeune et Alvin de Vos au milieu de sa vie. Voilà. Et petit à petit, c'est une des rares associations qui soit présente dans les bidonvilles au tout début des années 60. Et il commence comme ça à aller dans d'autres bidonvilles, le bidonville de la Campa, que vous voyez ici. Et ATD va s'étendre comme ça dans d'autres bidonvilles, mais aussi dans ce qu'on appelle les cités de transit à cette époque-là, qui sont faits pour loger temporairement les personnes. Et puis dans des vieux centres dégradés, les Courées de Lille, par exemple, et dans un certain nombre voilà, qui deviendront les logements sociaux. Bon, en fait, comme je suis, j'essaye de vous parler, mais je ne suis plus vraiment... toutes les notes que j'ai, donc c'est pour que ça soit plus vivant, mais du coup c'est plus exactement dans l'ordre, et puis parce que j'essaye aussi d'avoir effectivement un œil sur la montre. Ce qui est, donc voilà, tout ça je vous en ai déjà parlé. Les pré-écoles, non, mais c'est l'ancêtre des crèches, en fait, il met des pré-écoles dans les bidonvilles, et ça aussi, c'est complètement novateur. Ça, c'est les contrats projets d'insertion, c'est l'ancêtre du RMI, alors, si on regarde aujourd'hui, effectivement, ce que c'est devenu, il ne serait peut-être pas très content, mais c'est quand même l'idée d'établir un contrat, en fait, avec la personne, c'est dès tout début des années 70, d'établir un contrat avec la personne qu'on va aider, chacun se met d'accord sur un certain nombre d'objectifs, et puis surtout, les deux personnes sont... à égalité, c'est un contrat vraiment à égalité, alors qu'aujourd'hui le contrat du RMI, le contrat du RSA, etc. n'est plus un contrat égalitaire, et plus un contrat au sens juridique, enfin, originel du terme. Les universités populaires Quart-Monde, dans les années 70, qui sont au début des universités populaires anciennes sauces, et où après c'est les militants qui prennent la parole, ceux qui deviennent les militants, qui s'expriment et qui s'apprennent des choses à eux, qui du coup l'université populaire Quart-Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi en termes de dispositifs, ça n'existait pas comme ça dans les associations, c'est l'idée déjà de partager, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être écouté, mais c'est aussi l'idée de décloisonner et de se déculpabiliser, parce qu'en fait si chacun est tout seul à croire qu'il est coupable de sa situation tout seul, eh ben en fait c'est extraordinairement culpabilisant, puis on peut pas transcender ça, enfin on peut pas, alors que en parler, se rapercevoir qu'en fait on est plusieurs dans cette situation, qu'il y a des mécanismes récurrents, qu'en fait on n'est pas un coupable mais qu'on est une victime d'un ensemble de situations, bah ça permet d'avancer, ça permet de trouver des solutions et ça permet évidemment de trouver des solutions qui sont pertinentes. Le troisième, parce que du coup on en est au grand 3, le troisième point qui est extrêmement important dans l'histoire d'ATD Quart-Monde et qui m'a fascinée, c'est le rapport à la connaissance. À cette époque-là, aucune association ne fait d'études sur ce que ça peut être la pauvreté. D'ailleurs, on ne parle même pas de pauvreté. Les pouvoirs publics ne parlent pas de pauvreté parce que, petit un, ils pensent que la pauvreté a disparu. On est dans les 30 glorieuses, c'est la prospérité économique, la protection sociale, tout va bien, que tout va s'améliorer, que tout le monde va trouver un emploi. Et donc la pauvreté, petit un, ça n'intéresse personne. Et petit deux, si tant est que ça pourrait intéresser des gens, on dit, bah oui, mais il y a des personnes âgées d'un côté, il y a des handicapés, il y a des migrants, etc. C'est des problèmes tellement différents qu'on ne va pas les mettre dans la même catégorie. Et donc, en France, comme dans la plupart des pays occidentaux, on ne parle pas de pauvreté et on n'a pas de connaissance. Enfin, on ne parle pas beaucoup de pauvreté et on n'a pas de connaissance de ce que c'est que la pauvreté. Et une des grandes démarches à l'origine d'ATD Quart-Monde dès les débuts, c'est le père Joseph dit, il faut faire des études. Pour convaincre les gens, il faut leur montrer la réalité, il faut leur prouver, et donc il faut faire des études. Et cette démarche de connaissance, qui est menée principalement par des volontaires dont on en a deux éminents dans cette salle, donc là du coup j'ose plus du tout parler, voilà, il y a Louis et Daniel qui sont dans la salle, qui vont nous parler si vous voulez du bureau de recherche, mais donc on va se mettre à faire des études sur qui est l'enfant sous-prolétaire. Qui est la femme sous-prolétaire ? Qui est le travailleur sous-prolétaire ? pourquoi ils en sont là, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs aspirations, comment traiter les choses, qu'est-ce qu'une famille sous-prolétaire, depuis combien de générations on est sous-prolétaire. Et en fait, on s'aperçoit, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils ne sont pas prolétaires, sous-prolétaires depuis 10 ans, ils sont prolétaires depuis des générations et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais ça transforme complètement l'approche, parce qu'en fait, du coup, c'est ancré. Le vécu de la pauvreté, il est ancré, donc il faut complètement changer l'approche par rapport à ce que font les pouvoirs publics. Donc voilà, on a comme ça des approches complètement nouvelles. Et en France, à cette époque-là, personne ne fait d'études sur la pauvreté. Et donc quand les pouvoirs publics commencent à vouloir trouver des interlocuteurs, dans les années 60, 70, 80, surtout les années 80, mais quand même petit à petit, très rapidement, il y aura surtout à Thédé Carmonde, en fait, puisque même les chercheurs, il n'y a pas de chercheurs sur la pauvreté. Aux États-Unis, il y a la guerre contre la pauvreté, il y a des chercheurs, mais en France, non. Et donc les pouvoirs publics, du coup, vont... quand il arrivera la crise économique des années 80, se tourner prioritairement vers les solutions d'ATD, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres associations. Et donc, dans ces recherches, ATD fait des colloques internationaux, ATD fait des études, ATD fait plein de choses. Et donc, apprend plein de choses sur la pauvreté, qui sont des mines aujourd'hui pour l'historien, parce qu'à la fois, on comprend comment l'organisation a compris la pauvreté, mais on comprend aussi tout simplement quelle était la pauvreté de cette époque-là, parce que comme elle n'était pas étudiée, en fait, on a très peu de sources. Même les sociologues, il y a eu très peu de travaux de sociologie de la pauvreté dans les années 50, 60, 70. Donc en fait, ça nous sert aujourd'hui pour comprendre qui étaient les personnes en difficulté. Et donc, sans surprise, on s'aperçoit que les hommes ne sont pas des fainéants, enfin, sans surprise pour ceux qui connaissent, parce que... les études sont extraordinaires. Elles montrent qu'en fait, on dit toujours les gens, les pauvres, ils ne veulent pas travailler. Mais en fait, ce que montrent les études d'ATD dans les années 60-70, c'est que ces hommes ne font que travailler. En fait, ils accumulent des travaux. Ils travaillent. Ils se lèvent à 5 heures du matin. Ils travaillent jusqu'à ce que leur corps soit complètement usé. Ils ont des dizaines de boulots. Ils en changent, mais ils en reprennent tout le temps, etc. etc. Donc, il y a pas, c'est complètement contraire à l'image qu'on a des personnes en difficulté. Là où ATD Carmonde, ce travail de compréhension d'études, fait quelque chose de très important aussi, c'est le travail sur les termes, parce qu'à cette époque-là, on dit un peu des pauvres, on disait des inadaptés sociaux, des asociaux, on disait des cas sociaux, c'est-à-dire autant de termes qui sont quand même très péjoratifs et stigmatisants. Et ATD Carmonde, en faisant ses études, va essayer de trouver de nouveaux termes. Il dit, c'est pas possible, on peut pas parler des gens comme ça, parce que non seulement c'est stigmatisant, mais en plus ça n'est pas adapté à la réalité. Et donc le terme d'exclusion sociale, c'est ATD qui l'invente et qui le porte. Après, il y a le terme de sous-prolétariat, le terme de Carmonde, qui viennent un peu plus tard et qui sont très importants aussi. Voilà, ça c'est quelques mots sur... je vous ai déjà un peu expliqué tout ça. Je préfère avancer et puis parce qu'il reste encore un certain nombre de choses et puis qu'après on puisse discuter. Une autre spécificité de cette association par rapport aux autres, c'est les personnes qui s'engagent et ce qu'on demande en termes d'engagement. Dans les associations, il y a des salariés. ATD, ce n'est pas des salariés, c'est des volontaires. Dans les associations, il y a des bénévoles. ATD, ce n'est pas des bénévoles, c'est des militants. Il y a des personnes en difficulté, ou des clients, etc. ATD, c'est des militants. Et on voit bien que par tous ces termes, en fait, la réalité n'est pas du tout la même. La réalité n'est pas du tout la même parce que... Alors, le volontaire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on regarde ça. Alors, on a eu des grands débats, donc peut-être que, comme il y a un certain nombre de volontaires ici... dans la salle, ils pourront en discuter. Les volontaires des débuts, je pense quand même que ce qu'on leur demandait, c'était quelque chose de très, très, très fort et de très quasiment ascétique. Enfin, c'était un engagement total. Un volontaire, il était dans le bidonville tout le temps. Et du matin au soir et 7 jours sur 7, ils pouvaient aller se reposer un peu le dimanche, mais le samedi, Vrezinski faisait des réunions pour ceux qui voulaient en plus avoir, enfin pour les volontaires les plus assidus et les piliers, ils sont là tout le temps. Ils écrivent, le volontaire écrit, le rapport d'observation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le volontaire est là toute la journée aux côtés des personnes en difficulté, donc il est là, il observe, et le soir, il doit écrire son rapport d'observation. Le rapport d'observation, c'est vraiment une approche réflexive, c'est-à-dire se remémorer ce qu'on a vu, le coucher sur le papier, essayer de le comprendre, faire une mémoire pour plus tard, une mémoire de ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, ça devient une extraordinaire mémoire et des documents extrêmement précieux. Et puis, aussi, Wresinski disait toujours, je me souviens, cet héritage de la JOC, on ne doit jamais juger. Si, par exemple, vous rentrez dans un igloo et que l'igloo, vous le trouvez sale, vous ne devez pas dire qu'il est sale. Vous devez décrire, il y a de la poussière sur la table, il y a la chambre, le truc est mal rangé, etc. Pas de jugement. On ne juge pas, on décrit. Et en fait, ça change complètement l'approche. Ça oblige à être extrêmement attentif à ce que vivent les personnes, aux évolutions de la situation. Tous les soirs, Wresinski collecte les rapports, les lit. Et alors, du coup, lui, il a une vision synoptique de la situation parce qu'il sait ce que tous les volontaires écrivent. Il lit tout. À 11h du soir, il collecte ses rapports. Il les lit jusqu'à, je ne sais pas, vous me direz, 1h, 2h du matin. Et puis le lendemain, 8h, rendez-vous débriefing. Et on débrief de ce qu'on a lu des volontaires. C'est-à-dire, aucune association n'a jamais fait ça. En termes d'immersion totale, de compréhension, ça a des résultats qui sont évidemment complètement atypiques et extrêmement porteurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans trop traîner sur ce... Voilà. Les alliés. Alors, les alliés, c'est l'idée d'alliance. Au début, Wresinski n'aime pas trop les alliés. Il s'en méfie un peu. Et puis après, petit à petit, il leur donne un peu... Il les trouve trop bourgeois, en fait. Voilà, c'est ça. Il écrit qu'il les trouve trop bourgeois. et après, finalement, ça va mieux. Les alliés, c'est pareil. Alliés, c'est alliance. Hein, donc, c'est quand même un terme très, très fort. L'allié, c'est quelqu'un qui doit aller convaincre. Alors lui, il reste dans le milieu naturel, mais il doit convaincre tout le monde. Il doit convaincre sur son lieu de travail, il doit convaincre sur son lieu de vie, convaincre dans ses engagements, il doit, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est l'interface avec la société, mais qui doit transformer la société. Et puis le militant, c'est aussi quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Cette idée qu'on prend la parole, on est acteur, on n'est pas quelqu'un qui reçoit, mais on est quelqu'un qui participe, qui a une parole, qui donne, qui agit, qui participe aux recherches, etc. Ce sont des choses qui n'existent pas non plus dans les autres associations. Ça, je ne vais pas vous le faire, mais peu importe. Je peux, hein, mais du coup, ça me paraît superflu. Surtout qu'en plus, Daniel vient de me donner un super bouquin sur la pensée théologique de Wresinski. Donc, en fait, voilà. La question des plaidoyers, c'est la dernière partie et c'est pour moi la plus importante et la plus intéressante. Il y a un certain nombre de figures, donc en particulier Geneviève de Gaulle et Anneville de Vos. Je pense Geneviève de Gaulle parce que c'est la nièce du général de Gaulle, Anneville de Vos parce qu'elle est diplomate et qu'elle a quitté la diplomatie pour s'engager à Td Quart-Monde, qui ont une conception du politique, qui ont envie de faire changer les choses et qui ont de la méthode. Elles savent comment faire changer les choses. Et donc elles vont aller, par exemple, pour vous donner une image, comment Td Quart-Monde devient membre du secrétariat, du commissariat au plan. Eh bien, Anneville de Vos entend parler d'une réunion au plan. Et donc, un jour, elle s'invite à la réunion au plan. Elle n'est pas du tout invitée, elle arrive et elle s'assoit dans la salle et elle participe à la réunion. Puis les gens, comme en fait à cette époque-là, la pauvreté n'intéresse à peu près personne, tout le monde est content finalement qu'autour de la table, au moins une personne soit un peu dynamique et contente de la réunion. Et donc, on la réinvite à la réunion. Et après, elle est présidente de la commission de la Réunion, etc. Ça, c'est la méthode ATD, ça. On va dans les couloirs, on pousse les portes, et même celles qui sont fermées, on continue jusqu'à ce qu'elles soient poussées. Et on pousse les portes des ministères, on pousse les portes du Parlement, on pousse les portes de la Commission européenne, on pousse, parce que c'est comme ça qu'on transformera les politiques publiques, parce que c'est là que se transforment les politiques publiques. Et aucune association à cette époque ne fait ça. Personne n'a l'idée d'aller transformer les politiques publiques en allant taper aux portes. Donc les groupes Quart-Monde au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., c'est des moyens de transformation des politiques publiques. Et puis, comme ils ont des recherches, ils ont des données. Et donc ils savent montrer au pouvoir public ce qu'il faut changer avec des chiffres à l'appui, avec des études, etc. Maintenant, je switch un petit peu temporairement sur... quelque chose qui sort d'ATD et qui vise à vous faire comprendre les changements, parce que je reviens à ATD tout à l'heure, des années 80-90. Parce que c'est quelque chose de... Je pense vraiment qu'aujourd'hui encore, nous sommes dans une période qui a une unité par rapport aux années 70-80, qui sont celles de la crise économique et sociale, du chômage et de la précarité de l'emploi. Quand ATD est créé, c'est la Trente Glorieuse, c'est la prospérité. Je pense que mon graphique vous... Ah non, vous ne l'avez pas encore. Attendez là, je... Ouais, mais vous, du coup, vous le regardez, c'est embêtant. Quand ATD, dans les premières décennies d'ATD, c'est la prospérité économique. Aujourd'hui, vous êtes tous d'accord qu'on est dans une société de chômage et de précarité de l'emploi. Ça change absolument tout. Donc là, vous avez sur... mince, oulala, que je fais des bêtises, là. Voilà. Je vous ai mis sur le même graphique parce que c'est plus pratique, mais on peut les dissocier. La courbe bleue, c'est le chômage, le taux de chômage en France. Donc, vous voyez qu'on part dans les 30 Glorieuses, on était à 1, 2, 3%. On a du mal à imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 8, 10%, on n'arrive pas à descendre. On est dans une société de précarité de l'emploi. Vous voyez, la précarité de l'emploi, c'est la courbe un peu marron. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et la pauvreté, bah, du coup, en fait, elle a plutôt diminué par rapport aux 30 Glorieuses, mais les 30 Glorieuses, c'est parce qu'en fait, c'était une pauvreté des personnes âgées qui a été résorbée. Et maintenant, aujourd'hui, on est dans une pauvreté des actifs, des travailleurs et des personnes au chômage, parce que les familles monoparentales, un certain nombre de publics, etc., sont en particulier touchés ou bien par le chômage ou bien par la précarité de l'emploi, mais dans les deux cas, c'est paupérisant. Donc on est passé d'une pauvreté des inactifs à une pauvreté des actifs. Et qu'est-ce qu'on fait, les pouvoirs publics, dans les années 80 ? Ben, en fait, ils sont perdus, ils voient ce chômage qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et ils ne savent pas trop quoi faire. Et donc, les premières réponses, c'est des réponses d'urgence. C'est les plans pauvreté-précarité, c'est donner de l'argent au Resto du Cœur, qui se crée dans ces années-là, les années 1985, les banques alimentaires, 84, c'est de créer des centres d'hébergement, donc on fait de l'hébergement à tout va, etc. C'est du palliatif. Et sauf que qui tire l'alerte tout de suite ? En disant, non mais en fait, on ne va pas pouvoir faire du palliatif comme ça. Eh bien, c'est ATD Quart Monde. Et qui utilise en douce l'argent des plans pauvreté-précarité pour aller faire des études sur le revenu garanti? C'est ATD Quart Monde. Et donc, le rapport Wresinski de 85, c'est un vrai jalon parce que c'est lui qui, en fait, pose les bases de la transformation des politiques sociales des années 88, 90, etc., et qui pose les bases du revenu minimum garanti, le RMI, qui est voté en 1988 et qui dit, en fait, on ne peut pas faire que du palliatif tout le temps, ce n'est pas possible, en fait, on va dans le mur. La crise, elle est ancrée, le chômage, il est ancré. Et donc, en fait, il faut maintenant, ce qu'ATD disait, des droits planchers, il faut sécuriser un minimum de revenus. Et puis, ATD disait aussi, il faut sécuriser un droit au logement, qui n'arrive pas tout de suite, et il faut sécuriser un droit à la formation professionnelle et à l'éducation des enfants, etc. Parce que sans droit plancher, il y a cette belle image, sans plancher, le travailleur tombe dans le vide. J'ai trouvé ça dans les archives, c'était mignon, enfin, c'était marrant. S'il n'y a pas de plancher, effectivement, vous tombez. Et donc, l'idée d'avoir des droits qui sécurisent la personne en termes de revenus, en termes de logement, en termes de voilà, c'est vraiment une idée d'ATD Quart Monde, cette approche par les droits plutôt que par le palliatif. Je suis en même temps mon... Ouais, j'ai encore un petit quart d'heure. Oui, ça pour vous dire aussi, donc je vous ai dit, on passe d'une pauvreté des inactifs à une pauvreté des actifs. La sociologie de la pauvreté d'aujourd'hui, en fait, elle apparaît dans les années 80. On n'a pas beaucoup changé, en fait. Cette pauvreté des familles monoparentales, cette pauvreté des jeunes, des personnes à faible qualification, des chômeurs, des travailleurs pauvres, des personnes immigrées, c'est les principales figures de la pauvreté aujourd'hui. Ce sont des figures qui apparaissent, qui se sont ancrées depuis les années 1980. Et qui, évidemment, transforme le visage de la pauvreté. Et donc, les politiques publiques répondent en partie par le distributif. Là, vous voyez, par exemple, ça, c'est la courbe des Restos du Cœur. Ça, c'est les bilans des restaurants du cœur depuis leur création. Vous voyez qu'en fait, on distribue, on fait de la distribution alimentaire, et en fait, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Alors, ça a un peu diminué parce que la Covid, on a atteint un pic. Mais voilà, ça, on est typique des réponses des années 80, 90, où on fait ce palliatif. Les politiques publiques aussi, une autre incise, mais c'est important pour comprendre où on est aujourd'hui. Depuis les années 80, on n'arrête pas de détricoter l'assurance chômage. Depuis 58, on avait construit l'assurance chômage. Depuis les années 80, on détricote l'assurance chômage. Mais en fait, comme il y a beaucoup de chômage et qu'on détricote l'assurance chômage, en fait, on la contracte, qu'est-ce qui se passe ? Les chômeurs passent de l'assurance à l'assistance. Donc en fait, ils passent aux minima sociaux. Mais donc en fait, quand on dit qu'on est dans une société d'assistés, en fait, c'est nos politiques publiques qui fabriquent des assistés, en rétractant le périmètre de l'assurance et du coup en déversant les gens vers l'assistance. En fait, c'est un jeu de vases communicants fabriqués par les politiques publiques qui ne sont pas capables de lutter contre le chômage en créant des emplois et qui ne sont pas capables de lutter contre le chômage en faisant une assurance chômage digne de ce nom. Et donc, on déverse les gens vers l'assistance. Donc, la société des assistés, c'est, en fait, ce sont des politiques publiques. Sur ces politiques publiques, le tournant du rapport Wresinski en 1988, il est du rapport Wresinski en 87 et du RMI en 88, il est fondamental parce qu'on rentre dans cette période de grand droit. Mais donc, pour revenir à AT Descartes-Monde ne s'est pas arrêté au rapport Wresinski. Donc, Wresinski décède en 1988. Mais en fait, l'idée d'avoir des grands droits planchers, qui était un peu son rêve, cet objectif d'AT Descartes-Monde. En fait, c'est Geneviève de Gaulle qui va continuer à le poursuivre. Et donc, les années 90, c'est vraiment les années du combat pour le droit au logement, qui va aboutir en 90 et qui devient opposable en 2007, le droit au logement opposable. En fait, c'est une victoire d'AT Descartes-Monde. Et quand on regarde qui est à l'origine des mobilisations pour le droit au logement opposable, c'est encore AT Descartes-Monde, c'est Paul Bouchet, c'est la présidence d'AT Descartes-Monde, etc. Donc sans AT Descartes-Monde, je pense aussi que le droit au logement opposable n'aurait pas abouti comme ça. Le droit aux soins de santé, la CMU et l'AME, qui arrive dans les années 90, c'est inscrit dans les programmes d'AT Descartes-Monde. C'était les grands objectifs d'AT Descartes-Monde et de Geneviève de Gaulle en particulier. Donc en fait, vous voyez ces grandes transformations structurelles qui font qu'on a, en 1987, il n'y avait pas de droit à l'assistance pour toute personne. Il n'y avait pas de droit au logement, il n'y avait pas de droit au revenu, il n'y avait pas de droit aux soins de santé, il n'y avait rien. Et par le plaidoyer d'AT Descartes-Monde, c'est pas ATD tout seul qui a tout transformé, mais si on enlève ATD Descartes-Monde, en fait, l'histoire est écrite complètement différemment. Il n'y aurait pas tous ces grands droits qu'on a aujourd'hui et qui font que quand on arrive au milieu des années 2000, eh ben, la France a un vrai socle de grands droits parce que cette association s'est battue pour. Le problème, c'est que depuis le milieu des années 2000, en fait, on est dans une nouvelle période de durcissement. Parce que, alors, il y en a qui considèrent qu'on a été trop loin, ou qu'on ne peut pas aller plus loin. Il y a aussi tous ces vents étrangers, la mise au travail obligatoire qui est au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est des vents qui viennent du monde anglo-saxon. On dit, les pauvres, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'on soit un peu plus dur. En fait, s'ils ne travaillent pas, c'est parce qu'on est trop généreux. Il suffit de regarder les courbes. Ou alors, je crois que je vous en ai mis une. Attendez. Non, mince. Si, voilà, c'est ça. Ça, c'est la courbe du rapport entre le nombre de demandeurs d'emploi et le nombre d'emplois vacants. En haut, c'est le nombre de demandeurs d'emploi. C'est des gens qui cherchent un emploi. En bas, c'est le nombre d'emplois vacants. Donc, quand on dit il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi et les chômeurs sont des fainéants, en fait, il faut regarder les courbes. C'est mal. En fait, en vrai, c'est pas très honnête de dire ça, parce que les chiffres, ils sont quand même imparables. C'est-à-dire qu'en fait, on se bat, mais en fait, comme les pouvoirs publics n'arrivent pas à résoudre, et puis je tape sur personne en particulier, parce qu'on a eu la gauche, on a eu la droite depuis tout ce temps, et on a même eu un président qui se veut ni de gauche ni de droite, et qui, en fait, voilà, est ce qu'il est. Mais on n'arrive pas, et on n'y arrive pas, pourquoi ? Parce qu'en fait, les emplois, c'est les entreprises qui les créent. Alors, il y a la fonction publique, et puis il y a les entreprises. Mais donc, en fait, on n'arrive pas à créer assez d'emplois. Mais du coup, on fabrique une société du chômage. Et pour mettre les gens de façon forcée au travail, on les oblige à prendre des emplois précaires, des emplois sous-payés, des emplois pathogènes, des emplois intermittents, etc. Et du coup, on fabrique de la précarité de l'emploi. Mais cette précarité de l'emploi, elle est aussi paupérisante. Donc, on fabrique aussi de la pauvreté par la précarité de l'emploi. En fait, on ne s'en sort pas. On n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, y a une série de replis et de durcissements qui transforment de nouveau le regard qu'on porte sur les personnes en difficulté, parce qu'il y a ce vent américain qui est extrêmement dur sur tant pis, mettons les gens au travail quand même de force, etc. Il y a l'idée qu'il faut contrôler. Alors, des fois, pour des bonnes raisons, on donne de l'argent, on donne des allocations, pourquoi pas contrôler ? Mais sauf qu'en fait, on est devenu dans une société qui est de plus en plus contrôleuse. La CNAF contrôle, la CNAF CNAF fabrique des logiciels et puis après essaye de fabriquer des algorithmes pour contrôler de plus en plus, etc. Donc effectivement, pèse aujourd'hui sur les gens et ben, tout le temps de la suspicion. Puis cette idée, effectivement, l'assistance est redevenue extrêmement nécessaire, mais parler d'assisté et parler d'assistanat, c'est versé dans le péjoratif. Et aujourd'hui, on est dans une société où c'est devenu des termes assez communs, courants. Et donc, voilà, c'est devenu complètement commun d'entendre on est dans une société d'assisté, on est dans une société d'assistanat. Ben, non, en fait, la mécanique, il faut remettre les choses à leur place. C'est l'inverse, en fait. C'est la société qui fabrique quelque chose qui n'arrive pas à donner leur place du travail ou une utilité ou une dignité à tout le monde et qui donc laisse sur le bord de chemin des gens et en plus les accuse, essaye de leur faire croire qu'ils sont coupables alors qu'ils sont victimes d'un contexte économique. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on se bat dans ce contexte et malheureusement, je sors du CNLE ce matin, on en discutait et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Alors, ce que les associations font, elles ont continué à faire aboutir un certain nombre de choses. Le non-recours au droit, l'investissement social, qui est l'idée de lutter contre la pauvreté à la racine par la petite enfance. Ça, c'est aussi quelque chose de très ATD, de s'occuper des enfants, de les épauler dans leur parcours scolaire, dans leur parcours extrascolaire. Mais ça résout pas le problème. Je vous dis juste quelques mots et après ça c'est l'état actuel, mais je ne vais pas développer sur les. Enfin, on est aussi dans une société de crise du logement. On est dans une société où on fabrique des sans-papiers parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de. Enfin, si vous regardez les courbes, les gens, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui sont. Qui ne sont pas, enfin, dont les papiers ne sont pas acceptés, mais qu'on ne renvoie pas non plus, donc en fait, qui se retrouvent en France sans identité, dans un espèce de no man's land existentiel. On fabrique une société de la prison, donc on enferme à tout va, on n'a jamais eu autant de détenus. Le paysage de la pauvreté aujourd'hui est pas très, rend pas très, très optimiste. Et juste quelques mots. Oui, donc voilà, les associations sont une force de résistance et d'innovation. Et juste pour vous dire aussi quelques mots, qui est un autre aspect très important, j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'on est en France, mais ATD est profondément une organisation internationale qui s'est d'abord étendue dans les pays occidentaux du Nord, donc en Europe, en Amérique, dans les années 60-70, et puis après dans les pays du Sud, à partir de la fin des années 70 et dans les années 80, avec une approche très égalitaire, très circulatoire des volontaires qui passe du nord au sud, du sud au nord, et ça fait un vrai brassage assez original par rapport aux associations humanitaires où c'est plutôt des gens du nord qui vont dans le sud. Et il y a aussi tout un plaidoyer original au niveau international qui a deux grands piliers. Le premier, c'est cette obstination qui a fini par réussir à faire reconnaître la misère comme violation des droits de l'homme, à la fois des droits économiques et sociaux, parce que quand on n'a pas les moyens, en fait, on est privé toute une partie de ses droits économiques et sociaux, mais aussi civils et politiques, parce que souvent, c'est plus difficile d'aller voter, de faire exercer ses droits, etc. Donc, et puis, les deux s'entretiennent. Donc, cette idée de faire reconnaître la misère comme violation des droits de l'homme a fait aboutir ce combat à l'ONU. Et ces dalles, ça va avec. En fait, ces dalles, elles sont nées après la mort de Brzezinski. C'est les politiques de la dalle qui écrivent... Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits d'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré, qui commence à Paris, et puis après, y a des dalles au pied du mur de Berlin, au Vatican, dans le jardin des Nations Unies, etc. Et ça, c'est une phrase d'ATD Quart-Monde qui s'inspire des phrases du comité de mendicité de la Révolution française, et qui aujourd'hui a essaimé partout dans le monde, et qui fait partie aussi de la diffusion des idées, en fait, quand on arrive à faire poser ces dalles un peu partout dans le monde, c'est une façon de faire reconnaître cette violation des droits de l'homme et aussi d'ailleurs ce rôle des associations et de la nécessité de poursuivre. Voilà, je pense que j'ai été assez longue et puis en fait comme il y a beaucoup de gens très compétents dans la salle, je pense que ça serait plus intéressant de discuter. Voilà, je vous laisse là, je vous laisse la parole et ou les témoignages parce que en fait il y a beaucoup de gens qui sont des militants ou des alliés ou des volontaires d'ATD et qui, à mon avis, ont plein de trucs à raconter.
Voilà, je remercie donc Axel qui était déjà venu ici pour cette mise en valeur de cette dignité hein, de la personne à travers ce travail du père Joseph et aussi pour l'intelligence qui en est donnée, cette association, la dignité, l'intelligence de la situation et la parole qui est donnée aux personnes. Alors pour les questions, un très important, que ce ne soit pas trop long, c'est important que ce soit aussi des questions, même si vous avez des témoignages chacun, on verra si tel ou tel témoignage peut être repris. Donc, vous pouvez donc maintenant lever la main. Nous sommes deux pour donner le micro. Oui.
Merci, Marc Suchon. Je suis allié du mouvement depuis 1989. Merci, Axel, pour cet exposé. Ça tombe mal, ce n'est pas forcément une question, je suis désolé. Simplement un complément, si je puis me permettre. J'aurais mauvaise grâce, effectivement, de contredire une historienne. Vous avez souligné l'origine, la Bible, l'origine chrétienne du mouvement, portée par un prêtre, c'est la moindre des choses. Toutefois, moi qui suis allié depuis 1989, la pratique et la connaissance que j'ai du mouvement, c'est qu'il est interconvictionnel. Je pense qu'il faut qu'on insiste là-dessus. Qu'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, c'est la même chose quand on rentre dans le mouvement Quart-Monde. C'est quelque chose de très important pour nous. Ce qui compte, ce n'est pas tellement ce qui pourrait éventuellement nous séparer, mais c'est ce qui nous réunit, c'est-à-dire une recherche égale et acharnée de respecter la dignité des uns des autres, quels qu'ils soient. Voilà, c'est simplement un petit peu l'apport que je voulais apporter en tant qu'allié du mouvement. J'ai cité 89, ce n'est pas un hasard, vous avez dit aussi. 1989, c'est juste après la création du RMI. J'ai rencontré ATD à l'occasion d'une de ces innovations, de ces expérimentations qu'on appelait contre l'expérience une qualification, qui a permis à des bénéficiaires du RMI de l'époque d'acquérir une qualification qui était la clé de voûte d'une bataille qui était déjà très ancienne.
Merci. Vous avez raison, j'ai pas parlé de ce rapport à la religion. Par contre, quand je parlais dans la première partie des origines chrétiennes, c'était pas pour dire que ATD avait des origines chrétiennes, c'est pour dire que c'est notre culture qui a des origines chrétiennes et que le regard qu'on porte sur le pauvre dans les politiques publiques n'est absolument pas en cohérence avec ces origines chrétiennes de notre société. Hein. C'est quand même, faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, on est là ici. Enfin, c'est une société sécularisée, mais elle en a quand même pas moins une histoire qui puise là-dedans.
Est-ce qu'il est possible de dire deux mots de l'audience, de l'extension du travail d'ATD Quart-Monde en dehors de France?
Oui, alors je pense qu'il y a un certain nombre de gens ici qui seront beaucoup plus qualifiés que moi. Donc peut-être ça serait bien de leur laisser la parole. C'est d'après ce que j'ai vu et compris, c'est quand même en France que ATD Quart-Monde a eu l'impact le plus impressionnant sur les politiques publiques, même si, par exemple, en Suisse, il y a pu avoir des impacts. Il y a aussi beaucoup d'inspiration. C'est pas en tant qu'impact, mais c'est vraiment impressionnant de voir comment cette association fait des métissages, et notamment ce qu'elle a pris de la guerre contre la pauvreté aux États-Unis, d'état de la programmation, évaluation, le mouvement pour les droits civiques, enfin voilà. Donc en fait, elle se construit aussi par ce qu'elle prend dans différents pays et parce que les volontaires, les alliés apportent de différents pays. Il y a une espèce de synergie comme ça qui se fait. Mais en termes d'impact politique du plaidoyer, c'est surtout en France et au niveau international que c'est le plus spectaculaire. Après, par contre, c'est vrai que au Canada aussi, le plaidoyer a des résultats, mais c'est pas aussi impressionnant que ce que ça a été en France. Mais après, peut-être il y a des compléments dans la salle.
Oui, bonjour. Je suis une vieille militante de rue de la Nonciade. Je parle en conséquence de cause de la pauvreté. Le père Joseph, quand j'ai lu l'histoire, j'ai vu le film, il parlait beaucoup de la foi aussi. Et puis de la pauvreté. Donc, il faudrait peut-être qu'on respecte le prêtre que je connais pas. Mais voilà, je trouve que ça, ce que vous avez dit, c'était pas mal. C'était bien pour la religion.
Et si je peux dire un mot de la religion, enfin pas de la religion du Père Joseph, ça serait beaucoup trop long. Mais il y a deux choses qui m'ont marqué dans son approche. La première, c'est cette fameuse phrase "L'Église est l'Église des pauvres", qui est quand même qui est complètement marquée. Enfin, les années 60, on est en plein dedans. Mais la phrase du pape, c'était pas ça. C'était l'Église et enfin et notamment l'Église des pauvres. Et donc le Père Joseph en tire. L'Église est l'Église des pauvres, et puis en plus, les pauvres sont l'Église. Voilà. Et donc, il fait son truc. Et en fait, il forge sa propre. Puisque l'Église est l'Église des pauvres, les pauvres sont l'Église, puisque de toute façon, l'Église, comme elle est l'Église des pauvres, ne peut pas exister sans les pauvres. Donc, les pauvres sont l'Église. Et donc c'est, enfin, voilà, c'est une façon assez très années 60, mais très spécifique qu'il a eu de conceptualiser cette articulation entre la pauvreté et l'Église. Et d'autre part, une autre réflexion que je me suis faite. Dans quasiment toutes les associations de solidarité qui sont pour beaucoup de matrices chrétiennes, voire catholiques, que j'ai étudiées, en fait, ce qui est vraiment important, c'est la parabole du jugement dernier. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que ce soit pareil chez Wresinski. En fait, chez Wresinski, ce qui est le plus important, c'est la parabole de la brebis égarée. C'est en fait, on laisse tout, ce qui est devenu ne laisser personne de côté. On laisse tout pour aller chercher celui qui manque encore. C'est pas du tout, vous êtes en prison, très bien, je vais vous visiter, vous avez faim, très bien, je vais vous donner à boire, etc. Où on met en fait toutes les personnes un peu dans le même tas et dans la même gradation. Cette parabole de la brebis égarée, elle apparaît vraiment dans les archives et elle correspond vraiment bien à ce qu'il fait. Et on la trouve pas du tout dans les autres associations de solidarité.
Oui, bonsoir, je m'appelle Pascal, je suis alliée à TD Carmonde. Depuis quelques années. Et vous avez parlé donc d'ATD, un mouvement donc qui a changé, qui a révolutionné tout notre système social. Mais il y a un volet aussi auquel moi je tiens beaucoup, parce que quand j'ai entendu parler d'ATD pour la première fois, c'était sur un cursus de formateurs où on nous a dit que un mouvement avait dénoncé l'illettrisme en France pour la première fois dans les années 80. Avant cette date, ce sont les élèves qui sont responsables de leur échec scolaire. C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez. Enfin, je résume. Hein. Mais du coup, à partir des années 80, c'est ATD qui parle d'illettrisme. Et là aussi, il y a une vraie révolution au niveau du système scolaire. Et ça, on lui doit ça encore aussi. Donc, il y a encore plus que tout le système social. Il y a aussi le milieu scolaire.
Oui, vous avez complètement raison. C'est un des premiers grands combats de plaidoyer. Et d'ailleurs, c'est même pas à cette époque, on disait juste qu'il n'y avait même pas d'illettrisme, en fait, tout simplement. Et il y avait les chiffres les plus fantaisistes qui circulaient et on n'avait aucune donnée spécifique. Et c'est par ATD qu'il y a eu des chiffres solides, des études, des chiffres solides et ce plaidoyer, d'abord auprès de la France et après au niveau de l'Europe, pour faire reconnaître l'ampleur de l'illettrisme. Et du coup, mais ça, c'est vraiment la méthode ATD. C'est en fait, on est sur le terrain, on est tellement présent, on voit les choses, que du coup, on les identifie. Du coup, on solidifie l'argumentation, on fait des études, on collecte des données, on collecte des témoignages. Une fois que le dossier il est bien prêt, on le fait remonter et on fait tout un travail de plaidoyer. Et après, les politiques publiques, du coup, peuvent se transformer parce qu'on leur a démontré qu'il y avait quelque chose à faire et qu'elles étaient inadaptées. Ça, c'est vraiment la méthode de plaidoyer d'ATD qui est inégalée. Enfin, aujourd'hui, maintenant, qui est devenue très commune, hein, mais c'est en fait très récent à l'échelle de l'histoire que les associations se soient mises dans « je fais des études, je fais des rapports, je collecte la parole des personnes, je fais remonter tout ça, etc. » Mais vous avez raison pour l'illettrisme, oui, tout à fait.
Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis militante. Et aussi, je reviens à la question de Pascal, parce que c'est un petit peu ce que j'ai vécu, pas au sens du terme. Et puis l'autre question, c'était pour savoir si vous allez laisser des livres à ATD du Carmon, si d'autres, ils peuvent les prendre un peu plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas touché les allocations. Ma question, ben, c'est que je ne savais ni lire ni écrire. Je suis rentrée à la télé du Clermont en 1980, on va dire. Où j'ai eu la chance, et on peut dire grâce à Dieu, que j'ai connu la nièce Gérald de Gaulle et puis toutes les photos que vous avez fait voir. Et voilà, ben, en plus, je vous pense que je suis un peu émue. Et voilà. J'étais ravie d'être là et puis de rencontrer plein de gens. J'aimerais bien lire votre livre. Et je ne savais pas lire et écrire grâce à l'atelier du Clermont. Ils ont été là pour que je puisse trouver un travail, etc., etc., pour construire une vie.
Voilà. Ben merci pour votre témoignage, c'est magnifique.
J'aurais juste deux points. Juste un tout petit point, l'illettrisme, le mot même, c'est ATD qui l'a inventé. Oui. Hein, et on l'a sorti en...
On parlait d'analphabétisme.
Oui, exactement. Et ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Okay. Et c'est un mot qu'on a sorti à la mutualité en 77, avec vraiment très, très grande force. Je voudrais juste me dire, si l'historienne et d'autres pouvaient travailler aussi, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce que le mouvement il a apporté dans les autres pays. C'est vrai que ça a beaucoup apporté sur la France, okay, mais il y a aussi d'autres pays où on a fait des choses qui ont changé. Je pense par exemple le Guatemala, où tout le combat du mouvement, pas tout seul, mais tout le combat du mouvement est arrivé à ce que l'école soit gratuite et que du coup, ça a fait sortir des milliers d'enfants qui n'étaient même pas connus, qui n'avaient pas d'état civil, et qui d'un seul coup ont pu rejoindre l'école. Voilà. Je pense que c'est des exemples comme ça qui aussi ont des impacts au niveau de différents pays. Et vous avez cité le Canada, que je connais bien, parce que j'y ai été pendant plus de 7 ans, il y a eu aussi beaucoup d'impact. Mais dans tous les pays, je pense que le mouvement il a réussi à faire changer quelque chose.
Mais en fait, je pense que ce livre, c'est une petite pierre à une grande histoire qu'il faudrait écrire. Et en fait, maintenant, il faudrait faire la même chose sur tous les pays. Moi, il est très franco-centré. Il y a pas mal d'archives à Bayeux, quand même. La plupart des pays ont quand même un paquet de cartons. Et puis, c'est aux gens de chaque pays de se saisir et de reconstituer cette histoire. Vous avez raison.
Bonjour, Pascal Confavreux. Alors, je suis militant, mais pas chez ATD, chez Crésus, qui est une association qui lutte contre l'exclusion financière et qui lutte pour l'inclusion financière. Alors, si je reviens à quelque chose qui m'a beaucoup touché, vous avez parlé des pauvres et des bons pauvres et des mauvais pauvres. Alors, le mauvais pauvre, c'est celui qui ne travaille pas, mais alors le mauvais pauvre, c'est celui qui emprunte. Hein, et je voulais vous faire réagir parce que dans les plaidoyers que fait Crésus, on voit qu'il y a toute une opprobre qui est faite à l'emprunteur. Même s'il n'a rien compris à ce qui se passait, même si le vendeur n'a pas fait son job. Et je voulais vous faire réagir parce qu'on voit que l'éducation est extrêmement difficile. Ce sont des sujets techniques complexes. Hein, est-ce que j'ai le droit d'emprunter, pas d'emprunter? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on peut me prélever sur mon compte, oui ou non? Vous, avec ATD Carmonde, c'est quoi votre réaction par rapport à cette approche-là de la difficulté financière, de l'éducation financière? Je serais très preneur de votre éclairage.
Voilà. En vrai, ça m'inspire plus des trucs chez Emmaüs ou cette question de l'emprunt ou des questions culturelles. Si quelqu'un peut venir à mon secours. En plus, c'est à la fois une question méta et une question centrée sur ATD, c'est ça votre... Oui, oui, bah oui, comme toutes les associations, il l'a été. Il accompagne comme il peut, mais c'est pas l'association, je pense, qui a le plus pensé ces choses-là. Emmaüs a beaucoup plus pensé et travaillé à éteindre les dettes dès les débuts, etc. Et puis sur cette question de l'opprobre, oui, elle est générale, mais elle s'est quand même beaucoup atténuée depuis les années. Enfin, je pense que vous n'en voyez pas suffisamment les effets parce que ça vous. Mais ça a beaucoup changé depuis les lois des années 80 sur le surendettement, le fait que ça soit un phénomène qui maintenant est bien connu et quand même épaulé avec des portes de sortie. Je peux vous dire que c'était encore pire avant. Voilà. Ah bah, je crois que Françoise, du coup, elle avait la... Ouais.
Ça tombe bien parce que vous m'avez offert une transition. J'ai parlé d'argent aussi. Bonjour, merci pour votre intervention d'abord. C'était juste un point qui pose question dans les associations, il me semble, et vous avez abordé au tout début, c'est la relation entre la dignité et l'argent. Et le fait de demander en fait 1 euro, 2 euros, enfin un montant pour des vêtements ou un panier alimentaire, donc ça suscite le débat et je voulais savoir, je cherche actuellement à savoir qui a raison, qui a tort, et peut-être est-ce que c'est un point de vue culturel de dire ben non, il y a une corrélation et la dignité se fait par le fait de payer. Ou est-ce que véritablement il y a des études, par exemple psychologiques, qui démontrent qu'il y a une relation et que c'est mieux de faire comme ça ou comme ça. Voilà, entre le reste du cœur qui ne fait pas payer et d'autres associations qui décident, même si c'est symbolique, 1 euro ou 2, voilà, de faire payer. Est-ce que véritablement, scientifiquement, on peut s'appuyer sur des données pour dire bah, il y a une méthode ou l'autre qui est plus valable. Alors... Par rapport, en mettant toujours... la personne, le bénéficiaire, au centre. Hein. Ouais, pour cette personne-là, qu'est-ce qu'il y a de mieux, au final ? Merci.
J'ai pas connaissance d'études, ça serait intéressant, mais en fait, il y a tellement de biais après, parce que la question, c'est aussi plutôt comment c'est fait. En fait, l'idée, c'est... l'idée du père Joseph, c'était parce que sa mère avait été tellement humiliée par ses distributions et par etc. qu'il élaborait ça le faisait. Enfin, des gens qui faisaient l'aumône, des gens qui recevaient des distributions, c'était vraiment, ça le mettait dans une colère. Enfin, vraiment en colère, quoi. C'est en Inde, etc. Pareil. Mais après. Les Restos du Cœur vous diront que ça n'a aucun sens de faire payer quelqu'un qui n'a aucun revenu. Et il y a d'autres façons de préserver la dignité. La question, c'est comment on respecte la dignité de la personne. Ce n'est pas est-ce qu'il faut le faire payer, pas payer, etc. En fait, c'est quels moyens on trouve pour que... Enfin, c'est déjà suffisamment dur de devoir aller pousser une porte, de demander de l'aide, etc., qu'en plus, la personne ne se retrouve pas avec une couche supplémentaire d'humiliation, de honte, parce que en fait, elle n'en peut plus de souffrance, déjà, quand elle vient de demander de l'aide. Enfin, la plupart des gens, des personnes en situation de pauvreté, disent « mais le pire moment de mon parcours, c'est quand j'ai poussé la porte des Restos du Cœur, enfin, en venir à demander l'aide alimentaire. » Donc, les Restos du Cœur, par exemple, bah, essayent que les personnes qui viennent demander de l'aide puissent s'investir en tant que bénévoles. Donc c'est une façon... En fait, on est dans un truc très maussien, c'est donner, recevoir, rendre, quoi. Marcel Mauss, c'est la base... enfin, c'est le fondement de l'anthropologie. Une société, c'est le don, le contre-don, donner, recevoir, rendre. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, la personne le reçoit, mais un don est fait pour appeler un contre-don. Quelqu'un qui reçoit sans rien pouvoir redonner... C'est là où ça bloque. Donc, en fait, par exemple, le père Wresinski, du coup, lui, il s'invitait dans les igloos et il demandait un café à des gens qui n'avaient rien. En fait, il avait quand même un café, mais du coup, il avait un café et c'était symbolique parce que, voilà, on lui donnait quelque chose. Et en fait, tout est une question de posture. Comment on le fait? Avec quels mots? Dans quelles conditions? Dans quels locaux? Si vous arrivez que vous devez demander de l'aide et qu'en plus le local il est crade, que les gens sont pas sympas, qu'on vous fait comprendre que vous êtes un boulet, que etc. Enfin, non mais enfin voilà quoi, on peut tout imaginer. Non mais les gens qui racontent leur expérience au Resto du Cœur, enfin des fois ils racontent ça en vrai. Hein, et par ailleurs je connais très bien la direction des Restos du Cœur. Enfin ils font tout pour éviter ça. Donc en fait tout est une question de de prendre conscience que c'est déjà suffisamment difficile de venir demander de l'aide pour qu'en plus on n'en rajoute pas une couche, quoi. Et d'atténuer ça et de trouver une façon du coup de créer un truc maussien, donner, recevoir, rendre, voilà, de pouvoir rouvrir l'espace du don pour la personne qui reçoit, en fait. Je ne sais pas comment vous dire où... Voilà, mais peu importe de payer ou pas payer, en fait, finalement, c'est, pour moi, c'est pas ça. Finalement, ça n'est pas ça la question.
Oui, mais ça tombe bien, en fait, que j'ai pas eu la parole tout à l'heure. Parce que vous avez beaucoup employé les mots lutte contre la pauvreté, contre l'assistance, enfin. Mais moi, ce que j'ai compris, et je voulais avoir votre avis, votre point de vue dans ce que vous avez lu et étudié, Joseph Brzezinski, c'était très révolutionnaire. Sa pensée était très révolutionnaire, dans le sens où c'était vraiment un projet sociétal qu'il avait. Un projet, ou un projet de civilisation, mais un projet sociétal où il faisait des renversements très profonds de la société, des valeurs de la société. Et ça, j'aimerais entendre quelque chose de vous, là.
Mais c'est vrai que c'était ça. Encore plus que les cités de promotion, c'était sa grande idée. Au final, c'est le terme de projet de... je suis hyper embêtée, parce qu'en reparler devant Claude et Françoise Ferrand, c'est un peu embêtant, mais vous en savez plus que moi 20 000 fois. Mais c'est vrai que ce terme de projet de civilisation, il est extrêmement important, surtout à une époque. Effectivement, à son époque, ça en a attiré beaucoup. Eugène Brandt, il en parle aussi, etc. Pour vous, ça a été vraiment extrêmement important. Et c'est vrai qu'il était révolutionnaire. Enfin, je veux dire que la place qu'il donne aux militants, la place qu'il donne à la culture, la place qu'il donne, c'est plus une relation je donne, tu reçois, ça devient complètement autre chose. Le rôle des volontaires, enfin, tout est... j'ai essayé un peu de le dire, tout ce qu'il invente est complètement... pas tout, mais beaucoup de choses qu'il invente sont vraiment complètement nouvelles. Il a une façon de voir les relations, le rapport aux personnes en difficulté, la question des droits, de la politique, etc., à tout point de vue. Je sais pas jusqu'où ça va, c'est en fait aujourd'hui ATD transforme les politiques sociales, mais je suis pas sûre qu'on ait transformé la civilisation, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont abouti, mais l'idée de projet de civilisation, je pense qu'il serait déçu de voir où on en est aujourd'hui, par exemple. Donc, dans quelle mesure elle a abouti? Oui, il y a une énorme idée. En plus, c'est une pensée systémique, quoi. Il y a tout qui fait système, il y a tout qui est cohérent dans ce qu'il pense. Mais ça a abouti à transformer certaines choses dans notre société, mais pas la société complètement, quoi.
Je voulais intervenir, Emmanuel. Donc, je suis allié d'ATD Quart-Monde. Je voulais intervenir sur la façon d'aborder ce problème de payer ou pas payer, etc. Parce qu'en fait, c'est pas une démonstration, qui est faite. C'est le témoignage, c'est la pensée des plus pauvres qui est prise en compte là. Et c'est ça qui est très important. C'est ça la démarche. C'est pas de se dire on va faire ça parce que c'est bien ou c'est pas bien. Non. C'est ce que nous disent les plus pauvres. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important. C'est ce qui est fait sans arrêt dans la télé Quart-Monde, à travers les universités populaires Quart-Monde. Toutes les actions qu'on mène, c'est vraiment donner la parole aux plus pauvres. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et non pas dire la société décide qu'on va faire payer ceci, cela. Voilà. Je voulais te dire, cette approche est importante à comprendre. Voilà.
Je vais peut-être ajouter juste un mot en croisant votre intervention et celle de Françoise, c'est que par rapport justement à cette question de projet de civilisation, là il y a quelque chose dont vous pouvez être fiers vraiment tous les deux personnellement, c'est que la question du croisement des savoirs, en fait elle a transformé les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne dans les politiques publiques ne dit qu'il faut faire des politiques publiques sans écouter les personnes concernées. Plus personne n'ose dire ça. Et ça, en fait, ça, pour le coup, ça, c'est vraiment à vous qu'on le doit. Et je suis pas sûre que ce soit au Père Joseph. Je pense que c'est plus à vous, honnêtement, que... Ben oui. Non, mais là, du coup, dans votre idée de projet de civilisation, je pense que vous avez, vous deux, très personnellement, fait avancer des choses que lui n'avait pas pensé comme ça. lui n'avait pas du tout été aussi loin. Et ce croisement des savoirs, cette participation des personnes, de tout le genre, enfin maintenant de leur demander leur avis, de les écouter, etc. Ça, c'est vous, et ça, c'est une transformation en profondeur des politiques sociales françaises, belges, et du coup, maintenant, au niveau européen. Et donc là, il y a quelque chose de très puissant qui, à mon avis, est vraiment, en termes de projet de civilisation, là, on touche à quelque chose qui en participe aussi.
Vous ne vous impatientez pas, il y a au moins 5 personnes pour vous donner la parole. On fait dans l'ordre.
Bonjour, moi je suis au foyer. Merci de votre intervention. Je voulais vous poser deux questions sur la question de l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les droits de l'homme sont violés, pour les personnes immigrées, c'est profondément vrai, puisqu'il n'y a même pas de droit au travail. Quand on est réfugié politique et qu'on demande un droit, c'est très compliqué d'avoir un accès aux Français, un accès à l'accompagnement. Une grande partie des personnes ne sont pas logées, donc il n'y a même pas de droit à l'hébergement. Absence de droit total et il y a une espèce de cristallisation de la société sur cette question. Quand on interroge des gens à la préfecture, c'était le cas récemment, on nous dit mais 90% des gens sont au QTF. Alors ça c'est le grand mot. Ça veut dire qu'on a en France, source Darmanin, 600 000 personnes qui n'ont pas de droit que de travailler au noir, etc. Mes deux questions sont: comment ça se fait que notre société, qui est une société des droits de l'homme, en arrive à se cristalliser à ce point sur les personnes immigrées, dont 30% des demandeurs d'asile auront ce droit d'asile? Et qui fait du plaidoyer sur cette question?
Alors, pour être très directe avec vous et très désespérante, on ne peut rien tirer de l'histoire. L'histoire peut donner toutes les bonnes leçons qu'elle veut, dire « faut pas le reproduire », etc. Ça ne se reproduira, et ça se reproduit évidemment tout. Enfin, voilà. Mais s'il y a un mécanisme récurrent dans l'histoire, un seul, où on peut parier tout ce qu'on veut qui va, c'est que quand une société va mal, elle tape sur les immigrés. Elle se cherche un bouc émissaire qui est extérieur à elle-même. Et ça, on peut remonter à l'Antiquité, on peut remonter au Moyen-Âge, on peut remonter à l'époque moderne, on peut remonter à tous les pays, enfin, il n'y a pas que la France. C'est un espèce de mécanisme, et plus une société va mal, plus en fait elle se cherche un bouc émissaire et elle cherche sa cohésion sur des critères en partie identitaires. Et donc, malheureusement, pourquoi on en est là aujourd'hui? On en est là parce que, là du coup ça serait un autre exposé, mais c'est une question que je trouve fondamentale et extrêmement importante, et en plus très anthropologique. Enfin, ça questionne complètement le fond de ce qu'est l'homme et l'homme en société. Tant que la société n'ira pas mieux, tant qu'on n'aura pas résorbé le chômage de masse, la précarité de l'emploi, qu'on n'aura pas un vivre ensemble qui soit plus apaisé, qu'on n'aura pas ces médias qui nous montent les uns contre les autres, qui caricaturent la question sociale, ces propos faux sur le travail d'ATD, sur les idées reçues, etc. On vit dans un monde d'idées reçues, de crispations, de mal-être, où en fait, et en plus, en vrai, hein, les Français ne vont pas bien, et il n'y a pas que la question de la pauvreté. Genre, quand vous regardez une autre étude, on sort un peu, mais ça explique quand même beaucoup de choses, le CNLE a fait une étude sur les budgets de référence. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour vivre décemment en France, pour vivre sans le minimum, sans privation, pour pouvoir aller au travail, pour pouvoir avoir une semaine de vacances par an, etc. Enfin, les critères de la pauvreté matérielle de l'Europe que le CNL a pris, il faut aujourd'hui 1800 euros par mois par personne. C'est-à-dire qu'en fait, 40% de la population aujourd'hui en France est en état de privation plus ou moins important. Les gilets jaunes, c'est ça. Cette France du ressentiment, cette France de la précarité, c'est ça. Donc en fait, ce que les chiffres nous disent, c'est que 40% de la population aujourd'hui se sent pas bien et se travaille ou ne travaille pas, ne se sent pas à l'aise et considère qu'elle ne le mérite pas. Et donc, le réflexe qu'il y a, il s'est passé, donc les sociologues expliquent ça très très bien, j'essaye de le faire simple, mais le phénomène de triangulation. Avant, les gens du bas, ils tapaient contre les gens du haut. Vous êtes pauvre, vous êtes dominé, vous tapez contre les dominants. Schématiquement, c'était la société d'ordre, la société de classe, etc., le marxisme, je ne refais pas l'histoire. Voilà, on est en bas, on tape sur ceux qui sont en haut parce que c'est eux les responsables de la situation. Aujourd'hui, par série de mécanismes compliqués, il y a un phénomène de triangulation. Ceux qui sont au milieu tapent sur ceux qui sont en haut, mais ont quand même besoin de taper aussi sur ceux qui sont en bas. Et cette couche que je vous ai décrite là, en fait, entre les 14% de pauvres et les 40% de personnes en précarité, vous voyez la masse du milieu, cette énorme masse de population qui travaille de façon intermittente, qui est au-dessus du seuil de pauvreté, qui descend, qui remonte, etc., mais qui n'est pas bien. Et donc, en fait, en France, aujourd'hui, oui, grosso modo, 26% de la population est en situation précaire et potentiellement dans cette situation de triangulation, de vouloir taper sur ceux du haut, mais de vouloir aussi taper sur ceux du bas. Parce que, effectivement, il y en a qui se lèvent le matin et qui ne sont pas contents parce que d'autres touchent les allocs, parce qu'ils sont français et qu'on donne aussi de l'argent aux immigrés. En fait, on a fabriqué, depuis les années 80, on le voit monter. Vous suivez la courbe du Rassemblement national, enfin, électoral. La courbe du chômage et la courbe du RN, c'est quasiment la même. Ça remonte aux années 80 et jusqu'à il n'y a pas longtemps. Les courbes sont quasiment... ne diffusez pas ce que... c'est un peu caricatural. J'espère qu'il n'y a pas grand monde qui va regarder cette vidéo. Mais si je faisais un truc un peu caricatural pour expliquer le malaise de la société, en fait, c'est ça. Et donc, on tape sur plus petit que soi. On tape sur plus fort, mais il faut quand même être costaud pour taper sur plus fort. C'est vachement plus facile de taper sur plus faible. Et donc, on a fabriqué une société qui est une société pauvrophobe, comme dit ATD, et une société xénophobe. Parce que cette société ne va pas bien, n'est pas apaisée, n'est pas en cohésion avec elle-même, est dans le ressentiment, et etc. C'est tristissime, mais c'est... Et donc, qui fait ce plaidoyer ? Il y en a pas mal. Les meilleurs, je pense que c'est la CIMAD. Regardez notamment leur dernier clip, là, ils ont sorti des petits clips il n'y a pas longtemps qui sont super. Ils font un plaidoyer de vraiment super, mais il y a un moment, on rame à contre-courant. C'est la machine, on rame tellement à contre-courant, la machine est tellement forte que ce qu'on peut faire, c'est...
Alors, vu qu'il est 9h moins 4, on a le choix, il y a au moins 6 ou 7 personnes qui ont levé la main. Donc soit... On les écoute tous, mais vous ne répondez pas. Vous répondez après, globalement. Soit on en prend une, et puis c'est fini.
Bon, non, peut-être laisser... Enfin, moi, ça ne me gêne pas de... Je préfère laisser les gens s'exprimer.
Alors, dans ce cas-là, donc, si vous voulez, tous ceux qui veulent prendre la parole, ils la prennent, mais il n'y aura pas de réponse à chaque fois. Et puis, une fois qu'on aura écouté tout le monde, eh bien, Axelle verra ce qu'elle peut faire. Donc, il y a des gens de ton côté
Je voulais juste dire de ce mot lutte contre la pauvreté, combien il est ambigu. Parce que c'est comme si on mettait la pauvreté à l'extérieur de nous. Et on lutte contre. Alors que ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment une réciprocité. Quand on a fait le croisement des savoirs, on l'a fait suite à la loi d'orientation contre les exclusions. C'était un chemin pour rendre effectifs les droits fondamentaux. C'est un chemin, donc une réciprocité entre les citoyens et les pauvres. Si on compte seulement sur la parole des pauvres, ce n'est pas suffisant. Il faut que cette parole bouscule la parole des autres. Et en ce sens-là, on peut lutter. Cette pauvreté, elle est tellement banale que le mouvement s'est bâti sur le refus de la misère. Donc, on confond pauvreté et misère, et parfois, on entend ou on écrit « éradiquer la pauvreté ». C'est une absurdité. On éradique la misère, mais on réduit la pauvreté, peut-être. Mais voilà, je veux simplement dire par rapport à ce mot « lutte contre la pauvreté ». Oui.
Moi, je suis comme madame, je suis un peu émue ce soir. Axelle, je voulais vous dire d'abord un très grand merci. Je suis une ancienne volontaire et je pense que beaucoup d'entre nous, avoir votre livre est une immense reconnaissance d'années, et non seulement d'années, mais des décennies, notamment aussi pour tous ceux qui ont travaillé en dehors de la France, pour des décennies souvent d'incompréhension et souvent de rejet, mais pour les Français aussi, bien sûr, enfin, vous l'avez très bien dit. Donc d'abord, d'avoir pris des années pour vous plonger dans les archives d'ATD Carmande, d'avoir persévéré et de nous avoir donné ce pavé qui est une vraie brique de construction. Merci beaucoup. Et je voulais enchaîner juste avec un mot. Vous avez parlé au début des idées du Père Joseph et de ce qu'il voulait faire comme une fabrique d'expériences, etc. Mais je ne suis pas sûre que ça soit un mot très heureux. C'est un mouvement. Et les gens qui sont venus, les volontaires, ils ne devaient pas faire quelque chose. Les volontaires sont venus parce qu'ils aspiraient à ce projet de civilisation qui était plus ou moins défini, mais qui était un cœur, qui était comme un aimant de quelque chose que, aussi bien dans les cités que dans les paroisses, que dans les étudiants, dans les universités ou ailleurs, que les gens cherchaient. Et puis, ils ont cherché tous ensemble. Le Père Joseph n'a jamais appuyé sur un bouton et dit « je fais une expérience ». Ça a été, il disait lui-même, construit personne par personne. Et c'est comme ça que ce mouvement, encore aujourd'hui, se construit. Et donc, si on dit « c'est un mouvement », ça veut dire que ça n'est jamais fini. Ici, ce soir, il y a plein de convaincus. Mais autour de nous, et vous l'avez redit, les vents sont contraires et ils sont durs et ils vont se durcir encore. Donc, nous ne nous reposons jamais sur ce que nous avons pu acquérir, mais unissons-nous et basons-nous sur la volonté de vivre des gens. C'est eux qui enseignent ce mouvement.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre propos très, très, très riche et qui nous offre aussi le fil de la continuité. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez à la fin, sur la triangulation et cette classe moyenne qui se sent un peu menacée par le bas, un risque un peu de déclassement. Il me semble que c'est comme ça qu'on peut l'analyser. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans une période de transition écologique où on peut plus reposer sur l'espoir d'une croissance économique qui va finalement, dans la durée, finir par tirer un peu tout le monde vers le haut? Cet espoir-là, il n'existe plus, ou c'est un mensonge si on continue de le propager. Comment on peut réinventer du coup les choses dans ce contexte-là?
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposé vraiment passionnant. Moi, je suis une partenaire d'ATD Carmonde. Je suis aussi une militante pédagogique et je suis aussi militante dans un réseau qui s'appelle Jamais sans toi et qui occupe des écoles pour pouvoir héberger les enfants qui vivent dehors. Et je voudrais reprendre la question de l'immigration. Alors, j'avais envie de poser une question, mais du coup, je vais la transformer en un appel. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations en France qui aident les familles sans papiers, les personnes qui ont besoin de cours d'alphabétisation, il y a des tas de réseaux qui existent. Il y a des choses merveilleuses qui se passent à Calais, par exemple, pour donner de la dignité aux gens qui vivent dans ces campements. Et vous avez parlé de l'ancrage d'ATD dans un bidonville qui accueillait plutôt des personnes françaises et de l'ancrage catholique. Ici, il y a une assemblée de peau blanche. Et je fais un appel pour me dire nous devons croiser nos cultures associatives entre les personnes qui sont plutôt ancrées dans le carmonde d'origine française et qui ont apporté cette merveilleuse technique de croisement des savoirs, et puis toutes les associations qui travaillent avec des personnes qui viennent de tous les pays du monde. Et voilà, je crois qu'il faut qu'on apprenne plus à travailler ensemble, ces deux réseaux d'associations.
Oui, bonsoir. Je voulais simplement dire que déjà, oui, on travaille, et on travaille beaucoup ensemble, puisqu'on travaille avec beaucoup d'autres associations, dans plein d'actions qu'on mène. Jamais sans toi est un partenaire dans un certain nombre des actions qu'on mène sur Lyon. Je vois Tanguy du Secours catholique, des gens d'Oxfam, les gens de Médecins du Monde. Donc, quelque part, cette dimension de travail collectif existe. Je voulais aussi dire que, par rapport aux populations exilées, alors j'utilise le terme parce que c'est un terme qui est plus favorable entre guillemets que certains termes de migrants qui est aujourd'hui assez connoté. ATD vient de terminer un travail sur le sujet. Allez sur le site, vous verrez, ça s'est fait très récemment et c'était dans la continuité du plaidoyer sur la maltraitance institutionnelle. Et donc il y a maintenant un plaidoyer sur la maltraitance institutionnelle pour les personnes exilées. Voilà, c'est tout.
Voilà. Oui, c'est fini. Non, c'est fini. Non, non, mais ça doit... Oui, il faut finir un moment. Vous pouvez poser la question après directement à Axel. Et donc, et pour vous libérer aussi, parce que la soirée se prolonge et puis on termine à 21h. Donc, je voudrais d'abord la remercier pour le jaillissement qu'elle a provoqué et qui se prolonge dans les questions. Et puis aussi, vous rappeler que la prochaine conférence sera sur Zundel, qui est un théologien. Et cette conférence sera faite par Béatrice Soltner, qui est animatrice à RCF. Et elle aura lieu le mardi 3 mars. Voilà, le mardi 3 mars. Voilà. Et puis, donc, à la sortie, vous avez des paniers. Et n'hésitez pas à venir parler avec un appel au secours.
Excuse-moi, je force un peu la porte, mais je voudrais juste faire une petite annonce. Tout à l'heure, Axel a parlé des idées reçues, des idées fausses qui sont véhiculées et dont les personnes en situation de pauvreté sont les premières victimes. Alors, je voudrais faire part d'un événement que ATD Lyon est en train d'organiser. Ça aura lieu les 6 et 7 mars prochains. Donc, c'est à l'occasion. Il y a deux bouquins qui viennent de sortir aux éditions Quart-Monde dans la collection « En finir avec les idées fausses sur la pauvreté ». Donc, il y a deux entrées. Pauvreté, maltraitance institutionnelle et pauvreté, écologie. Donc, il y a deux bouquins qui viennent de sortir, écrits par la journaliste et autrice Isabelle Motreau, qui sera parmi nous. Et donc, ces deux bouquins-là seront présentés le samedi 7 mars. C'est fait en collaboration avec le Centre social Quartier Vitalité, à la condition des soins. Il y aura d'autres associations partenaires qui seront là avec nous. Donc venez, vous êtes très cordialement invités pour essayer de dénoncer et combattre ces idées fausses et ces idées reçues. C'est à 13h30 le samedi 7 mars. Et nous ferons en ouverture le vendredi 6 mars une projection d'un très beau documentaire sur la pauvreté qui s'appelle Gosse de France. Voilà, donc c'est un événement auquel on tient et merci par avance de votre présence.
Juste simplement encore une petite annonce, je suis désolé, mais on en profite qu'il y a un petit peu de monde. Dans le prolongement de ce que Nicolas vient de vous proposer, vous présenter, le 25 mars, il y a un concert au CCVA, le Centre communal de la vie associative de Villeurbanne. Le métro s'arrête juste devant. Ce concert est organisé par plusieurs chorales, dont la nôtre, celle d'ATD Quart-Monde. Il y a aussi les ateliers musicaux, je ne me rappelle plus exactement parce que c'est un peu tard, les chantiers musicaux. Le but, quand même, c'est très directement de permettre à un projet d'ATD qui s'appelle Respire, qui nécessite des investissements, de l'argent, donc très clairement aussi, d'une part, d'écouter pendant une heure et demie d'agréables chansons, mais aussi de pouvoir contribuer à la réussite financière de ce projet. Je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes intéressé, vous allez vite tout à l'heure en rentrant chez vous sur le site d'ATD Quart-Monde. Vous verrez ce qu'est le projet Respire et que ça vaut vraiment le coup que tout le monde se mobilise pour le soutenir. Merci. Le 25 mars à 19h au CCVA.
Et si c'est 7 mars...
Voilà, donc après les petites annonces, il y a la quête à la sortie, donc...
Non, mais du coup, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai essayé de parler à la personne qui ne savait rien. Mais bon, du coup, tout le monde...
Par rapport à votre première conférence, l'élargissement...